Ça a commencé ? L'émission a commencé ?
Debout !
Énorme ! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances ?
Le football, il a changé.
Good morning Tour. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Tour. Il est 7h16 et c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes le vendredi 26 septembre et c'est le début de 50 minutes d'émission. Au programme aujourd'hui, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, une décision historique actée ce lundi. On évoquera également le procès de Gaëlle Perdriau, maire de Saint-Étienne, accusée de chantage à la sextape. Le verdict tombera aujourd'hui. Alors que les chiffres montrent une hausse de la pauvreté dans l'Hexagone, on ira aussi sur le terrain avec Alia Trabelsi. Elle a rencontré des tourangeaux qui avouent limiter leur sortie pour finir leur fin de mois. On terminera cette matinale sur une autre note, avec un sujet qu'on associe souvent au spectacle, mais qui en réalité serait politique, le drag. Rendez-vous vers 8h pour écouter le billet d'Angelina Richard et de Clara Baudard. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info présenté par Lise Hochkorn. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité cette semaine, Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs hier soir dans l'affaire des financements libyens. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison avec incarcération par le tribunal de Paris. Une décision que l'avocat de l'accusé qualifie d'incompréhensible. Ce procès fait suite aux révélations faites en 2012 par Mediapart autour de sa campagne présidentielle menée en 2007. Elle avait bénéficié de nombreux versements d'argent par le dictateur libyen Muammar Kadhafi. Une attaque d'une rare violence envers la flotte humanitaire du Global Summit Flotilla a fait réagir la communauté internationale ce mercredi 24 septembre. Les 51 bateaux à destination de Gaza avaient pour objectif de briser le blocus imposé par le gouvernement de Netanyahou depuis 2007. Selon des membres d'équipage, l'armée israélienne aurait endommagé les navires à l'aide de fusées éclairantes explosives et de grenades assourdissantes. L'Italie et l'Espagne ont condamné cette opération, tandis que la France s'en tient à rappeler que les volontaires à bord étaient informés des risques encourus. Une semaine marquée par de nombreux survols de drones pour le Danemark. Plusieurs d'entre eux ont été aperçus au-dessus d'aéroports, dont celui de Copenhague, le lundi 23 septembre, puis dans la nuit du mercredi au jeudi. La première ministre danoise dénonce des violations de l'espace aérien. Les soupçons se portent vers la Russie suite aux incidents similaires survenus en Pologne et en Roumanie, bien que le pays nie toute implication. Des négociations toujours en cours à Matignon, le Premier ministre a reçu mercredi pour la deuxième fois l'intersyndicale et les invite à revenir prochainement. Sébastien Lecornu continue donc de s'entretenir avec les partenaires sociaux sur la marche budgétaire à suivre, tandis que les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre. L'ancien ministre des Armées reste sans gouvernement pour le moment. Ousmane Dembélé, sacré Ballon d'Or ce lundi 22 septembre, le footballeur du PSG était le grand favori pour le titre. Il devient ainsi le sixième Français à décrocher ce prix après Michel Platini, Zinedine Zidane ou encore Karim Benzema. À ses côtés dans le palmarès, l'Espagnol Aitana Bonmatí remporte la victoire une troisième année de suite pour le Ballon d'Or féminin.
C'était le Flash présenté par Lise Hochkorn. Deuxième point d'information dans 20 minutes. Il est 7h19, vous écoutez bien Good Morning Tour sur Radio Campus. Lise, vous restez avec nous en studio puisque vous allez maintenant nous parler de la taxe Zuckman. En débat à l'Assemblée nationale depuis janvier, la proposition de loi sur la taxe Zuckman portée par deux députés écologistes a beaucoup fait débat cette semaine. Certains n'ont pas manqué d'y réagir avec ferveur.
Mettre à terre l'économie française, ce serait ici le véritable objectif de la taxe Zuckman, selon les termes de Bernard Arnault. Le milliardaire semble effectivement fortement remonté contre l'économiste et prix Nobel Gabriel Zuckman, dont les recherches ont inspiré ce projet de loi encore débattu à l'Assemblée nationale. Mais en quoi consiste réellement cette taxe sur les ultra-riches ? La proposition des deux députés écologistes Eva Sass et Clémentine Autain consiste à instaurer un impôt plancher à hauteur de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. L'idée, selon ses adeptes, serait de rééquilibrer une injustice fiscale, là où la majorité des Français reverserait 50% de leurs revenus à l'État via les prélèvements obligatoires, les milliardaires se contenteraient de 27%. Et tout cela grâce à l'optimisation fiscale, ce phénomène dont on entend souvent parler, qui permettrait aux plus riches de moins payer d'impôts tout en restant dans la légalité, à l'inverse de l'évasion fiscale. Il consisterait ici principalement à faire reposer un maximum de revenus sur des actions et la détention d'entreprises, des sources d'argent qui relèvent donc bien du patrimoine et échappent aux prélèvements habituels effectués sur les revenus du travail. Pourtant, cette proposition de loi fait aujourd'hui fortement débat. Beaucoup sont ceux qui ont réagi ces deux dernières semaines, que ce soit pour la défendre ou, au contraire, pour s'y attaquer. Parmi les principaux reproches faits à cette potentielle nouvelle taxe serait un mauvais calcul des recettes engendrées pour l'État. Là où sont promis jusqu'à 20 milliards d'euros supplémentaires grâce à cet impôt, cet économiste, dans une tribune de Le Monde publiée le 9 septembre, calcule plutôt 5 milliards de recettes. Il s'agirait à leurs yeux d'une décision qui serait avant tout symbolique aux yeux de la population. Cette taxe est en effet soutenue par 64% des Français selon un sondage de l'Institut Cluster 17. Gabriel Zucman, de son côté, s'est défendu des accusations lancées par l'homme le plus riche de France en lui reprochant de s'en prendre à une recherche libre de toute pression financière. Bernard Arnault a également déclaré être le tout premier contribuable français à titre personnel, une information qu'il n'a cependant jamais démontrée, n'ayant jamais communiqué le montant qu'il déverse personnellement en impôts.
Merci Lise Hochkamp pour ces explications. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est une décision à la fois historique et symbolique prise à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Ce lundi 22 septembre, Emmanuel Macron a officialisé la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, une annonce qui vient concrétiser un processus entamé depuis plusieurs mois avec d'autres pays. Esther Laborde.
En tout, ils sont 11, les 21 et 22 septembre 2025, à avoir franchi le pas de la reconnaissance officielle de la Palestine. Parmi eux, le Canada, l'Australie, le Portugal, le Royaume-Uni ou encore la Belgique. Le président de la République a expliqué, je cite, « Il nous appartient maintenant de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun ». Il a ajouté que cette reconnaissance était la seule qui permettra la paix pour Israël, mais aussi une défaite pour le Hamas. Une décision qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la solution à deux États, défendue par la France depuis plus de 10 ans.
On parle beaucoup de la solution à deux États, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle impliquerait ?
Alors cette solution prévoit la création de deux États indépendants et souverains. Un État juif, Israël, et un État arabe, la Palestine. Les deux coexisteraient côte à côte avec Jérusalem sous un statut international. Aujourd'hui, même si près de 150 pays sur les 193 membres de l'ONU reconnaissent la Palestine, elle n'est pas considérée comme un État souverain en droit international.
Et que faudrait-il pour que ce territoire le devienne officiellement ?
Alors selon l'ONU, 4 critères doivent être respectés. Le pays doit avoir une population permanente, un gouvernement capable d'exercer son autorité, un territoire délimité par des frontières et une capacité à entretenir des relations avec les autres États.
Emmanuel Macron a été applaudi à l'issue de son discours, mais cette décision politique n'a pas fait l'unanimité.
Non, le lendemain, Donald Trump a vivement réagi et critiqué cette décision, estimant que reconnaître la Palestine revenait à récompenser les terroristes du Hamas. Du côté d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a parlé lui aussi d'une récompense pour les massacres du 7 octobre. Certains ministres d'extrême droite ont même évoqué l'idée d'annexer la Cisjordanie comme réponse aux gouvernements occidentaux.
À noter que 52 mairies, dont celles de Rennes, Nantes ou encore Tours, ont tissé le drapeau palestinien en signe de soutien à cette décision. Il est 7h24, on va marquer une petite pause musicale avec le titre Bloody Railroad du groupe britannique Supertramp.
Well, right, you got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. You know you're right to say. Yeah, yeah, you're bloody well right. You know you're right to say. Me, I don't care anyway. Write your problems down in you're bloody well right. You got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. Ha ha, you're bloody well right. You know you're right to say. Yeah, yeah, you're bloody well right. You know you got a right to say. You got a bloody right to say. The bloody right to say.
C'était Bloody Well Right de Supertramp. Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours sur Radio Campus. De retour d'un échange de 6 mois sur l'île de Java en Indonésie, Youn Roland est avec nous pour évoquer la colère populaire qui a secoué récemment le pays insulaire avec des témoignages recueillis directement auprès des Indonésiens.
Oui Jules, aujourd'hui je vous emmène en Asie du Sud-Est et plus précisément en Indonésie où des émeutes meurtrières ont récemment embrasé le pays. En cette fin de mois d'août 2025, des milliers d'Indonésiens étaient descendus dans la rue pour manifester leur colère contre le gouvernement, mais la situation s'est rapidement envenimée, plongeant l'archipel dans le chaos. Le bilan est lourd, 10 morts et des milliers de blessés, pour la plupart victimes des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, ces dernières étant considérées par de nombreux Indonésiens comme ennemis publics. L'origine de cette colère populaire, la révélation d'une indemnité financière équivalente à 2500 euros octroyée aux 580 députés indonésiens, faisant l'effet d'une bombe dans le pays. Dans un contexte économique et social difficile où le salaire national moyen s'élève à 210 euros selon les chiffres de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, les Indonésiens, dont beaucoup d'étudiants, accusent les politiques de s'enrichir tandis qu'eux luttent au quotidien contre le coût grimpant de la vie, les impôts ou encore la hausse du chômage. À Jakarta, Bandung et dans plusieurs autres grandes villes indonésiennes, de nombreux bâtiments publics et gouvernementaux ont été attaqués par les manifestants. Début septembre, de nombreuses universités ont par ailleurs stoppé momentanément leurs cours en présentiel et appelé les étudiants à ne pas sortir de chez eux. La situation a atteint un point critique après la mort d'un jeune chauffeur de taxi-moto percuté par un véhicule blindé de la police indonésienne dans la nuit du 28 au 29 août à Jakarta. Jour et nuit, les manifestations ont donc continué d'enflammer le pays, et ce malgré l'appel au calme du président Prabowo Subianto, élu récemment en 2024 et qui traverse ainsi sa première grande crise à la tête d'un gouvernement dorénavant fragilisé.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les Indonésiens se rebellent contre leur gouvernement.
Oui, en effet, face à tout ce chaos, il est difficile de ne pas penser à la mobilisation indonésienne de 1998. À l'époque, dans un contexte de crise économique en Asie du Sud-Est, elles avaient conduit à la démission du président Suharto, alors au pouvoir depuis plus de 20 ans. À cette époque, les Indonésiens dénonçaient déjà la corruption, l'oppression et la montée de l'autoritarisme, des accusations qui, 27 ans plus tard, restent malheureusement d'actualité.
Comment ça se passe aujourd'hui, 3 semaines après les mobilisations ?
Aujourd'hui, près d'un mois après les événements, la situation semble s'être apaisée, notamment après l'annonce du président du retrait de cette fameuse indemnité financière allouée aux élus du pays.
Merci Youn Roland. Les Indonésiens restent néanmoins toujours sur leur garde et la tension, elle, reste palpable sur l'archipel.
Depuis la rentrée, un feuilleton est diffusé à l'antenne. Il raconte le combat contre le cancer de Clément, étudiant de 23 ans. Désormais remis de la maladie, il a créé une association pour aider les jeunes diagnostiqués. Mais cet accompagnement lui tient à cœur puisque le vingtenaire a lui-même été malade pendant ses études. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série, les études et la vie pendant le traitement. Jules Frécon, c'est à vous.
C'était notamment les prémices de l'immunothérapie. Ça me faisait moins peur que la chimio parce que physiquement, on pouvait croire que tout allait bien. L'avantage de ce truc-là, c'est que vous ne perdez pas vos cheveux, mais du coup, vous êtes blanc comme un linge et vous avez une immunité vraiment aux fraises. Quoi. Enfin, c'est un truc qui vous chopez tout ce qui passe. Et donc, je fais ces traitements, je poursuis mon année en fait. Je m'enferme dans le travail et le travail un peu m'empêche de penser. Ce qui est paradoxal, mais en ayant des objectifs tous les soirs, en travaillant beaucoup, je vais travailler en plus des cours à la fac, 6-7 heures de temps perso en plus. Enfin, c'est un truc, c'est un moyen en fait de pas penser aux trucs angoissants. Il y a un bulldozer qui vous écrase, si vous avez moyen de fermer les yeux, vous le faites. Quoi. J'ai bien réussi ma troisième année malgré tous ces déboires parce que j'ai refini premier, donc j'étais vraiment très content. Pour moi, c'était un peu une satisfaction personnelle de se dire que malgré un handicap majeur, voilà, on peut toujours s'en sortir, on peut réussir les ambitions qu'on s'était fixées.
La semaine prochaine, l'épisode 3, les complications. Il est 7h33, vous écoutez toujours Good Morning Tour sur 99.5 FM. La semaine dernière, des députés d'un groupe transpartisan se sont réunis en Mayenne, à Laval. Le but, tenter de pousser le Premier ministre à prendre des mesures radicales contre les déserts médicaux dans le pays. Clara Daneri, vous êtes avec nous en studio et vous nous en dites plus.
En effet, cela s'est déroulé quelques jours à peine après le déplacement de Sébastien Lecornu en Saône-et-Loire. Déplacement durant lequel il a promis à tous les Français une offre de soins à 30 minutes de chez eux d'ici l'année 2027. Des députés, issus aussi bien de la France insoumise que des Républicains ou bien des socialistes, ont appelé le gouvernement à mettre urgemment à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi appelée loi Garot. Selon eux, elle constitue la seule solution véritablement efficace contre la difficulté d'accès aux soins dans de nombreuses parties du pays. Ce texte de loi, porté par le député socialiste Guillaume Garot, avait été très largement adopté par l'Assemblée nationale le 7 mai dernier, mais n'a encore jamais été étudié par le Sénat.
Quel est le contenu de cette loi et que prévoit-elle de mettre en place ?
Alors, le texte de loi prévoit plusieurs mesures, comme par exemple la suppression de la majoration des tarifs pour des patients n'ayant pas de médecin traitant, ou encore le rétablissement de l'obligation de permanence des soins. Mais la mesure qui a fait le plus de bruit est celle visant, je cite, à flécher l'installation des médecins vers les zones où l'offre de soins est insuffisante. Concrètement, cela comprend entre autres la mise en place d'une autorisation d'installation délivrée à chaque médecin par l'Agence régionale de santé. Cette autorisation serait automatique dans les zones sous-dotées, mais en zone où la proposition de soins est suffisante, un médecin ne pourrait s'installer que si un praticien de la même spécialité que lui s'est arrêté d'exercer. Cette mesure s'est heurtée en mai dernier à de vives protestations, aussi bien de la part de médecins que d'étudiants, tous indignés à l'idée de ne pas avoir la liberté de s'installer où ils le souhaitent sur le territoire.
Et la promesse du Premier ministre ne suffirait-elle pas à résoudre le problème ?
Alors les députés ne rejettent pas en bloc la solution avancée par Sébastien Lecornu, qui repose notamment sur la construction de 5000 maisons de santé dans les zones médicalement sous-dotées d'ici 2027. Cependant, ce programme en laisse certains sceptiques, leur principal doute étant en effet le suivant : comment de nouvelles maisons de santé vont-elles résoudre la situation si aucun médecin n'est là pour les remplir ? Selon eux, la solution avancée par le Premier ministre n'est donc pas inutile, mais elle est cruellement insuffisante pour résoudre le problème croissant des déserts médicaux en France.
Le Premier ministre s'est encore engagé à rien vis-à-vis de ce projet de loi. À ce jour, 69 départements français sont considérés comme médicalement sous-dotés. Il est 7h35 sur Good Morning Tour. On se retrouve juste après une petite pause musicale avec le titre Follow the Sun de Xavier Rude. Thank you.
Follow, follow the sun. And which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intention. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun.
Vous êtes toujours sur Good Morning Tour, il est 7h40. On va enchaîner avec la chronique sport d'Agathe Sado qui est avec nous en studio. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Formule 1 puisque dimanche dernier, un grand prix s'est déroulé et il était à ne pas manquer selon les fans, c'est ça ?
Oui, une course qui est, dont l'issue rebat les cartes du championnat du monde. En début de saison, la rumeur planait sur le paddock. Cette année, les McLaren sont rapides et pourraient bien empêcher Max Verstappen d'obtenir avec Red Bull un cinquième titre de champion du monde. Dès les premiers Grands Prix, le ton est donné. McLaren domine en course et enchaîne les podiums. À la mi-saison, trois quarts des vainqueurs portaient les couleurs de l'écurie. Et pour cause, la monoplace est redoutable et le duo de pilotes brillant. D'un côté, Lando Norris, arrivé il y a 7 ans chez McLaren, principal rival du champion du monde en titre l'année dernière. Et de l'autre, Oscar Piastri, seulement dans sa troisième saison en F1, surnommé Ice Boy pour son sang-froid à toute épreuve. Après quelques courses, l'issue semble déjà claire, le champion du monde portera les couleurs de McLaren. Une question persiste, qui de Norris ou Piastri prendra l'avantage ?
Alors qui s'est imposé ce dimanche en Azerbaïdjan ?
Après un début de saison pied au plancher, McLaren semble depuis quelques courses en perte de vitesse. Et oui, ce n'est pas toujours facile d'avoir dans son équipe deux compétiteurs qui se battent pour la même coupe. L'écurie, qui insiste pour n'avantager aucun pilote, finit parfois faute de choix par les desservir tous les deux. Et puis, à mesure que s'égrènent les courses, la pression s'intensifie aussi. Norris l'a déjà prouvé, avec le stress, il a tendance à multiplier les erreurs. Pendant ce temps, Max Verstappen gagne du terrain. De retour après la pause estivale, la Red Bull du champion en titre a subi des améliorations qui semblent porter leurs fruits. Au Grand Prix d'Italie il y a quelques semaines, le Néerlandais devançait les deux McLaren de près de 20 secondes sur la ligne d'arrivée. Ce dimanche, McLaren signe carrément au Grand Prix d'Azerbaïdjan son pire résultat de la saison. Suite à des qualifications chaotiques, Max Verstappen prend la première position au départ et les McLaren se voient relégués au 7e et 9e emplacement sur la grille. Scénario catastrophique, le leader du championnat Oscar Piastri entame sa course par un faux départ et se retrouve dernier du peloton avant de s'écraser dans un mur quelques virages plus loin. Quant à son coéquipier Lando Norris, il réussit péniblement à maintenir sa 7e place pendant que Max Verstappen monte sur la première marche du podium.
À quel scénario pourrait-on s'attendre pour la suite ?
On l'imaginait incassable, la carapace d'Oscar Piastri semble finalement se fissurer sous la pression. Son coéquipier Lando Norris peine à rattraper son retard alors que Max Verstappen remonte doucement au tableau des scores. Le duel final entre les pilotes McLaren, qui semblait encore certain il y a quelques semaines, vacille et la fin de saison pourrait se montrer bien plus serrée qu'on ne l'attendait. Peut-être l'écurie Red Bull s'est-elle inspirée cette année d'un célèbre conte dans lequel Jean de La Fontaine disait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Reste à savoir si le pilote néerlandais réussira à rattraper son retard.
Merci Agathe Sado. Pour la suite du championnat, rendez-vous dans deux semaines sur les antennes de Canal+. Ce sera le Grand Prix de Singapour. Il est 7h43, l'heure du second Flash Info, les infos présentées par Lise Oshkorn.
Nicolas Sarkozy, reconnu coupable d'association de malfaiteurs hier soir dans l'affaire des financements libyens. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison avec incarcération par le tribunal de Paris. Une décision que l'avocat de l'accusé qualifie d'incompréhensible. Ce procès fait suite aux révélations faites en 2012 par Mediapart autour de sa campagne présidentielle menée en 2007. Elle avait bénéficié de nombreux versements d'argent par le dictateur libyen Muammar Kadhafi. Une attaque d'une rare violence envers la flotte humanitaire du Global Sumud Flotilla qui a fait réagir la communauté internationale ce mercredi 24 septembre. Les 51 bateaux à destination de Gaza avaient pour objectif de briser le blocus imposé par le gouvernement de Netanyahou depuis 2007. Selon des membres d'équipage, l'armée israélienne aurait endommagé les navires à l'aide de fusées éclairantes explosives et de grenades assourdissantes. L'Italie et l'Espagne ont condamné cette opération, tandis que la France s'en tient à rappeler que les volontaires à bord étaient informés des risques encourus. Une semaine marquée par de nombreux survols illégaux de drones pour le Danemark. Plusieurs d'entre eux ont été aperçus au-dessus d'aéroports, dont celui de Copenhague le lundi 23 septembre, puis dans la nuit du mercredi au jeudi. La première ministre danoise dénonce des violations de l'espace aérien. Les soupçons se portent vers la Russie suite aux incidents similaires survenus en Pologne et en Roumanie, bien que le pays nie toute implication. Des négociations toujours en cours à Matignon, le premier ministre a reçu mercredi pour la deuxième fois l'intersyndicale et les invite à revenir prochainement. Sébastien Lecornu continue donc de s'entretenir avec les partenaires sociaux sur la marche budgétaire à suivre, tandis que les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre. L'ancien ministre des armées reste sans gouvernement pour le moment. Ousmane Dembélé, sacré ballon d'or ce lundi 22 septembre, le footballeur du PSG était le grand favori pour le titre. Il devient ainsi le 6e français à décrocher ce prix après Michel Platini, Zinedine Zidane ou encore Karim Benzema. À ses côtés dans le palmarès, l'Espagnol Aitana Bonmatí remporte une troisième victoire de suite pour le ballon d'or féminin.
Merci Lise Oshkorn, vous écoutez toujours Good Morning Tour sur 99.5 FM. C'est la fin du procès Perdrio ce vendredi. L'actuel maire de Saint-Étienne comparaissait pour avoir fait chanter son ancien bras droit Gilles Artigues. D'une manière pour le moins particulière, Antoine Carré, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez sur cette affaire qui a chamboulé la préfecture de la Loire.
Oui, on connaissait le chantage à la sextape chez les footballeurs, mais en politique c'est une première. En 2022, le journal Mediapart dévoile une sombre affaire où 8 personnes gravitant autour de la mairie de Saint-Étienne, dont l'actuel maire Gaël Perdrio, auraient tenté de museler un adversaire politique. Pour comprendre les faits, il faut remonter en 2014, année d'élection municipale, où le candidat des Républicains l'emporte face au PS, grâce au soutien du centriste Gilles Artigues, la victime de cette affaire. Une fois installé à la mairie, Gaël Perdrio s'empresse de nommer son nouvel allié au poste de premier adjoint, le début de ce qui aurait pu être une belle idylle politique pour les deux hommes.
Et pourtant, leurs relations se sont crispées par la suite.
Et c'est là toute la particularité de cette affaire, Jules. L'ancien député entre 2002 et 2007, Gilles Artigues, commence à faire de l'ombre au maire de la ville, ce que ce dernier n'aurait pas supporté. Et pour bâillonner ce potentiel opposant politique, Gaël Perdriau aurait manigancé une rencontre entre Gilles Artigue et un escorte dans un hôtel parisien en janvier 2015. Avec l'aide de certains élus municipaux et de son directeur de cabinet, le maire de Saint-Étienne aurait récupéré des vidéos montrant l'escorte et son premier adjoint en pleine séance de massage alors que ce dernier était marié et père de 4 enfants. Depuis plusieurs années, Gilles Artigue est devenu l'ombre de lui-même, humilié publiquement, totalement éteint, comme racontent certains de ses proches au journal Le Monde. Le premier adjoint s'écarte petit à petit de ses fonctions, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
7 ans plus tard, l'affaire de la sextape éclate au grand jour et Gaël Perdriau fait face à la justice cette semaine.
Alors il n'est pas le seul, ils sont 8 au total à être présents depuis le lundi 22 septembre au tribunal correctionnel de Lyon. Parmi les autres acteurs de cette affaire, son adjoint Samy Kefi-Jérôme, qui s'est chargé d'organiser le rendez-vous parisien en 2015, d'avoir également enregistré les vidéos à caractère sexuel, fait lui aussi face à la justice. Tout comme son compagnon, Gilles Rossary Langlais, qui aurait ensuite monté un film de quelques minutes avec les rushs, en échange de 2 subventions de 20 000 euros. Gaël Perdriau, évidemment, lui, comparé pour des faits de chantage, de détournement de fonds publics et de participation à une association de malfaiteurs. Le maire de Saint-Étienne était à la barre mercredi dernier pendant plus de 7 heures, où le déni était de mise, malgré des enregistrements audio accablants de l'ancien des Républicains, délibéré ce vendredi pour le maire de la cité forésienne.
Merci Antoine, condamnation ou pas, il ne fait aucun doute que le délibéré de cette affaire fera écho dans la ville de Saint-Étienne à moins d'un an des élections municipales. 6 Français sur 10 déclarent ne pas pouvoir faire de sortie ou de loisirs en famille. C'est l'une des données révélées ce mois-ci par le 19e baromètre de la précarité réalisé par Ipsos pour le Secours Populaire. Pour cause, en 2024, près de 9 100 000 personnes ont été déclarées sous le seuil de pauvreté en France. Alia Trabelsi s'est rendue dans les rues de Tours pour observer cette hausse de la pauvreté chez les Français.
Jean-Luc ne semble pas surpris par les chiffres du Secours Populaire. Avec sa maigre retraite, le sexagénaire dit lui aussi vivre cette précarité au quotidien.
Cette année, on n'a pas pu partir en vacances, faute de budget. Et puis le cinéma, les balles, de temps en temps, on est privé, quoi. Le budget passe par le loyer et puis par l'alimentation. Puis à la fin du mois, il ne nous reste plus rien.
Caroline, elle, considère gagner sa vie convenablement. Pourtant, elle déplore ne plus pouvoir se faire plaisir comme avant.
Tout devient compliqué. J'avais l'impression d'avoir plus de pouvoir d'achat quand j'étais étudiante, ce qui est quand même un peu contradictoire, mais on avait accès à plus de choses, c'était moins cher. Enfin, c'était plus simple. Si on veut se payer une place de cinéma qu'on n'a pas de réduction, c'est hors de prix. Si on veut se payer un festival, il n'y en aura qu'un dans l'été parce que tout ça, c'est trop cher. Quand on compte tous les à côté, le déplacement, la nourriture, c'est de moins en moins accessible.
Ce mois-ci, Catalina, maman de 3 enfants de 5 à 2 mois, s'est par exemple vue refuser une sortie à ses enfants.
Bah oui, certaines activités quand même qui me réclament, mais je peux pas forcément. La semaine dernière, c'était le Futuroscope. Il y avait la rentrée scolaire et tout ce qu'il y avait à payer. Mais on n'a pas pu aller au Futuroscope en fait.
La mère de famille ne fêtera d'ailleurs pas son anniversaire au restaurant ce soir. Trop cher pour 5 personnes.
Un reportage d'Alia Trabelsi. Le baromètre du Secours Populaire a également révélé que la moitié des parents avouent avoir honte de ne pas pouvoir offrir ce qu'ils veulent à leurs enfants. Il est 7h50, on va faire une pause musicale avec Liberty Bell de Fontaines D.C.
You know I love that violence that you get around here, that kind of ready steady violence, that violent how do you do, and the lawyer when it's daddy wife sleep in a phone booth, he's just very very tired of having that same old boring conversation, just like me, just like you, man is on a notch, yeah, what you gonna do about it? You know I love that violence that you get around here, that kind of ready steady violence, that violent how do you do, the lie when it's daddy wife sleep in a phone booth, he's just very very tired of having that same old boring conversation, just like me, just like you, man is on the notch, yeah, what you gonna do about it, is it easy, just to try it? Is it the same old lie? Well, is it liberating just to be so fine? Happens all the time.
You know I love that violence that you got when the car wind blows down. News of the marriage of the socialites, money to another one's land. And I put one where it used to stand, yeah. This is very ridiculous and it's coming from the back row, side row, never even tried row. Nice man if you knew him well. I heard he on the place called the Liberty Bell, yeah. Well, is it easy?
I think I'll try it.
Cause it's the same old lie. I find it liberating just to be so fine. Happens all the time.
Il est 7h53, vous venez d'écouter Liberty Bell du groupe de rock irlandais Fontaines D.C. Lui n'est pas irlandais, il ne fait pas de rock, mais ses musiques gonflent les compteurs des plateformes. Avec 1 milliard de streams sur Spotify en seulement 13 jours, Bad Bunny est aujourd'hui l'un des chanteurs de reggaeton les plus écoutés au monde. Son dernier album, Debi Tirarmas Photos, désolé pour l'accent, vous a sûrement fait danser tout l'été. Et aujourd'hui, on se demande avec vous, Sohan Hassen, bonjour.
Bonjour.
Derrière ce phénomène commercial, l'artiste peut-il soutenir des luttes politiques comme ses chansons le laissent entendre ?
Bad Bunny, de son vrai nom Benito Ocasio, originaire de Porto Rico, est considéré comme le plus grand chanteur de reggaeton après Daddy Yankee. La sortie de son clip, Nueva Yol, le 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis, n'a pas été choisie au hasard. Pour comprendre la portée de ce clip, il faut revenir sur l'histoire de cette île. Ancienne colonie espagnole, annexée par les États-Unis en 1898, Porto Rico est aujourd'hui un État libre associé. Un statut hybride où les Portoricains ont un passeport américain mais ne peuvent ni voter à la présidentielle ni élire de représentants au Congrès. C'est dans ce contexte que Bad Bunny dévoile Nueva Yol, contraction portoricaine de New York. Le clip s'ouvre sur un mariage traditionnel portoricain, puis continue sur une séquence marquante, le drapeau portoricain brandi au sommet du statut de la liberté. Ce geste n'est pas anodin, il fait écho à deux actions militantes historiques. En 1977, des indépendantistes portoricains avaient hissé ce même drapeau sur le monument pour réclamer la souveraineté de l'île. En 2000, 12 activistes réitèrent l'acte en dénonciation des tests d'armes chimiques menés par la marine américaine sur l'île portoricaine de Vieques depuis des décennies. Puis juste après cette séquence, une fausse voix de Donald Trump déclare que ce pays ne serait rien sans l'immigration. Il s'agit là bien évidemment d'un détournement politique qui rappelle que cette diaspora est au cœur même du tissu social américain. Dans la seconde partie du clip, on peut voir défiler des images d'archives en noir et blanc, des visages, des luttes, une mémoire qui traverse les décennies et résonne à travers le dernier album de Bad Bunny. Il ne s'agit pas seulement de politiser l'intime. Lorsque 6 millions de Portoricains vivent aux États-Unis dans un climat anxiogène alimenté par une montée du nationalisme et la multiplication de politiques identitaires, sa musique réunit et fédère toute une diaspora. Et lorsqu'un soutien à l'élection de Donald Trump affirme que Porto Rico est une île flottante d'ordures, l'artiste rétorque à la fin de son clip « Juntos somos más fuertes ». Ensemble, nous sommes plus forts.
Par crainte que la police de l'immigration ne soit postée à la fin de ses concerts, Bad Bunny a décidé d'exclure les États-Unis de sa tournée mondiale. Elle débutera en novembre. On reste dans le domaine de la musique. La Russie, exclue en 2022 de l'Eurovision suite à l'invasion de l'Ukraine, a relancé son ancienne version soviétique du concours de chant, l'Intervision. Et ce sont 22 pays qui ont envoyé leurs chanteurs à Moscou avec un résultat inattendu, n'est-ce pas, Lisa Blois ?
Alors oui, l'Intervision, c'est l'Eurovision à la soviétique, laissée aux oubliettes avec la chute de l'URSS. Poutine l'a remis au goût du jour samedi dernier avec pour règle de, je cite, « respecter les valeurs traditionnelles et les cultures multiples ». Des mots qui annoncent la couleur, puisque le pays interdit les droits LGBT+, et a été jusqu'à qualifier notre concours européen de propager des valeurs dites décadentes. Et pour marquer le coup, la Russie a mis des moyens technologiques impressionnants. Musique, lumière et réalité augmentée de silhouettes dansantes géantes en costumes traditionnels ont été utilisées. Ce spectacle a d'ailleurs été en partie rendu possible grâce aux sponsors du ministère de la Culture des Émirats Arabes Unis. Le show musical a même failli réussir à s'offrir la présence de la chanteuse américano-australienne Vassy, qui a finalement déclaré forfait suite à des pressions politiques de l'Australie. même si parmi les jurys, on a pu compter sur le chanteur américain Jolin Turner. La propagande russe se vante d'au moins 1 milliard de vues, et à vrai dire, difficile de quantifier. Mais sur YouTube, les 4 heures de concours ont recueilli 8000 vues au moment du décompte des votes.
Et quel est l'objectif de ce concours ?
La Russie veut se montrer moderne, entourée et accueillante. Elle veut promouvoir une image positive à l'étranger. Le chanteur patriotique du pays hôte Shaman, très célèbre en Russie et qui a donné des concerts dans des territoires ukrainiens occupés, le résume le mieux en déclarant forfait dès le début du concours pour montrer l'hospitalité russe.
Donc les règles ont évolué au fil du show, mais finalement, qui a gagné ?
Avec surprise, le chanteur vietnamien androgyne Duc Phuc a remporté la première place et 300 000 euros de gains. Les propagandistes russes, eux, qui ont pourtant vivement critiqué les cérémonies des JO à Paris, se sont réjouis de cette victoire.
Et rendez-vous l'année prochaine pour l'Intervision 2026. Elle se déroulera en Arabie Saoudite. La culture, c'est aussi près de chez vous. Avant de nous quitter, nous allons remplir votre agenda du week-end. Alia Trabelsi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes justement là pour nous présenter les sorties culturelles à ne pas manquer. Et même si les journées du patrimoine sont déjà derrière nous, il reste de quoi bien s'occuper à Tours, c'est bien ça ?
Dans le mille, Jules, les portes de notre patrimoine se ferment, mais notre volonté de s'occuper, elle, est en bois de chêne. Et cette semaine, on a dit au revoir à l'été. La météo nous l'a d'ailleurs amèrement rappelé. Et pour inaugurer les saisons froides, direction la soirée de clôture de la guinguette de Tours, ce samedi à partir de 19h. L'événement annuel réunira la troupe du Petit Monde et celle de la Java des Baleines venue tout droit de l'île de Ré pour l'occasion. C'est donc sur un air de jazz avec des spectacles mêlant danse, cirque et acrobatie que l'on dira à l'été prochain au point de ralliement des Tourangeaux. Du côté du bateau ivre, l'ambiance sera à l'électro, la punk et la militance. Pour cette seconde édition de What the Tuff, les groupes Sangris, Joey Gluten et Planète Boom Boom défileront à tour de rôle à partir de 19h. Nous vous conseillons d'ailleurs de réserver pour bénéficier des tarifs pré-vente de 12 à 15 euros.
Et après s'être épuisé sur la piste le samedi soir, qu'est-ce que vous avez repéré pour se détendre ce dimanche, Alia ?
Déjà, dès 8h, une brocante d'antiquités démarra boulevard Béranger, donc face au palais de justice. Et c'est l'occasion, pour ceux qui ont loupé la braderie de Tours, de se rattraper sur les bibelots accumulés au fond du salon. La manifestation se déroulera d'ailleurs toute la journée. À 11h, cap sur le cinéma studio pour l'avant-première du film Disco Africa. Le réalisateur sera présent pour accompagner la projection et répondre aux questions du public. Et pour prolonger la rencontre, un brunch africain est prévu après l'échange.
Il y a aussi, dans le domaine du sport, la 6e édition du Running Loire-Vallée, c'est ça ?
Vous m'avez devancé, Jules. En effet, toute la journée ce dimanche se dérouleront aussi les marathons solo et duo annuels de Tours, au départ de 7h30, ainsi que les 20 km dès 9h et pour finir les 10 km à partir de 11h. Nous souhaitons d'ailleurs bonne chance à Julianne Schneider, Mathis Maudet, Esther Laborde et Baptiste Villermé qui seront là pour représenter 3 promotions de l'EPJT.
Merci Alia, en espérant que nos collègues cassent les chronos cette année encore. On arrive bientôt à la fin de cette seconde matinale de la saison, il est 8h tout pile. Avant de se quitter, on accueille Clara Baudard et Angelina Richard en studio. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Pour la communauté queer, mais pas seulement, cet été a été rythmé avec la série Drag Race All Star, diffusée le jeudi soir sur France Télévisions. Plusieurs drag queens se sont affrontées dans différents défis pour, à la fin, couronner la grande gagnante. Mais plusieurs séquences ont fait réagir, notamment certains propos politiques tenus concernant certaines drags. Angelina et Clara, vous nous expliquez.
Oui, tu dois faire référence par exemple aux propos tenus par la drag queen Soa de Muse lors de la finale au Grand Rex.
Et ça te permet de passer 2-3 messages comme Free Palestine, Free Soudan, Free Congo.
Dans les commentaires, on peut lire « Pourquoi toujours tout ramener à la politique ?» ou encore « Dorombage, qu'elle prenne parti ?» Mais le drag est et a toujours été politique.
Pour le comprendre, il faut remonter à son origine. La culture drag vient du théâtre et du cabaret. À l'époque, on utilisait plutôt le terme « travestissement ». Durant l'Antiquité, les hommes jouaient des rôles de femmes car elles étaient tout simplement exclues de la scène. À l'époque, la communauté gay était rejetée, marginalisée, voire totalement exclue. La scène était alors leur seul moyen d'expression.
Le terme drag queen vient aussi de l'association des mots drag qui signifie traîner et queen qui, en argot, symbolise un homme homosexuel, mais de façon péjorative pour les personnes qui le disent. La première personne connue à se définir comme une drag queen est William Dorsey Swan. Dans les années 1880, il a commencé à organiser des bals à Washington avec d'autres anciens esclaves. Il fut d'ailleurs condamné pour ça.
C'est en partie de cette tradition que naît d'ailleurs la scène ballroom, des espaces de résistance et de création pour les personnes queer racisées. Pour faire simple, le drag, c'est une performance, un art, où l'on pousse les codes du genre de façon volontairement exagérée. Ce que l'on connaît le plus comme la féminité avec les drag queens, mais encore la masculinité avec les drag kings ou d'autres formes d'expression de genre comme le drag queer ou encore le drag créature.
Cet art, c'est en fait aller à l'encontre de notre société patriarcale, homophobe, transphobe, raciste et j'en passe. C'est montrer que l'on peut être qui on veut, quand on veut, du genre que l'on veut et qu'on existe, peu importe notre histoire et qui on est.
Petit à petit, le drag se modernise et goûte au projecteur. Séries, talk-shows, films, le drag finit par s'imposer. Et en 2019, l'iconique RuPaul's Drag Race naît.
C'est à travers cette émission que le drag devient populaire. Le principe est simple, les queens, donc les participantes, défilent dans des tenues uniques sur des thèmes, s'affrontent en lip-sync, c'est-à-dire sur du playback, et performent pour une victoire.
Ici, même avec les paillettes des productions télévisées, le drag est et restera politique. En coulisses ou sur scène, les queens se livrent sur leur expérience avec le VIH, le racisme ou encore la transphobie. Et le phénomène va largement dépasser les frontières américaines et poser ses bagages chez nous, en France. Drag Race est diffusé sur la chaîne publique France Télévisions depuis 2022, mais attention, les messages politiques restent ici assez prudents au sens politique du terme.
Et oui Clara, bien que l'émission a permis d'expliquer le drag et de le rendre plus accessible, il l'a rendu aussi mainstream. Il ne faut pas oublier qu'on reste sur une chaîne du service public où l'expression reste limitée. Mais les drags peuvent parfois passer des messages sans pour autant les dire. Dans cette dernière saison de Drag Race, il y a plusieurs performances qui ont marqué notre attention.
Je pense directement à la drag Moon, une femme transgenre qui se confie sur son souhait d'avoir des enfants. Impossible pour elle d'en porter, alors, pour le défi sur le thème gonflé, elle est apparue avec une robe blanche, un clin d'œil au créateur Alexander McQueen. Et sur scène, Moon est apparue avec un ventre de personnes enceintes apparent. Sa particularité, il gonflait. Un, pour ne pas dire, l'événement le plus émouvant, toute franchise confondue.
Et comment ne pas parler de la grande gagnante ?
Oh là là, qui voilà !
Pour l'avant-dernier épisode dans la catégorie Vive la Reine, elle a draguifié un masque traditionnel utilisé dans la danse du Zaoli de la culture Wobé en Côte d'Ivoire, un hommage à son histoire et à sa culture. D'autres queens mettent aussi en avant leur savoir-faire, car c'est un travail monstre, de la création des tenues en passant par le make-up ou encore le storytelling. Ce qui est sûr, c'est que toutes dénoncent toute forme d'oppression ou d'injustice. C'est ça le drag, dénoncer à travers la scène et rendre hommage aux personnes queer et racisées.
Merci Angelina et Clara. Les drags de cette dernière saison sont d'ailleurs en tournée dans toute la France pour refaire leur chorégraphie mythique, mais aussi pour performer sur des titres inédits. Il est 8h04, c'est la fin de cette matinale. Merci aux auditeurs d'avoir passé cette heure avec nous et merci à ceux qui y ont participé. Lisoche Korn, Esther Laborde, Youn Rollin, Clara Danry, Agathe Sado, Antoine Carré, Alia Trabelsi, Sowan Hassen, Lisa Blois et Angelina Richard ainsi que Clara Baudard. On n'oublie surtout pas Gabriel Ziar qui, comme chaque vendredi, s'est levé très tôt pour assurer à la régie technique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous, bonne journée à toutes et à tous.